Je disais, quand on s'est partagé les thèmes de cette année, assez vite, j'ai voulu prendre celui-là, et je voudrais commencer par un tout petit témoignage personnel, pour la raison pour laquelle j'ai pris ce thème-là. Quand j'étais entre mes deux cycles de séminaire, entre le cycle de philosophie, les trois premières années, et le cycle de théologie, les trois dernières années, je suis parti pendant 2 ans aux Philippines, travailler auprès des enfants des rues. Et pendant ces 2 années, en fait, cette question-là, pourquoi est-ce que Dieu permet ce mal qui frappe les personnes les plus innocentes, c'était pour moi un scandale qui a même failli me faire renoncer à ma vocation. Parce que je me disais, les personnes les plus innocentes qui soient, des enfants, donc des enfants de 3 à 17 ans, les plus âgés, étaient prostituées, battues, violées, droguées, connaissaient le tréfonds du mal humain. Et ça, quand ça arrive à des coupables, on se dit éventuellement, il le mérite. C'est pas vrai, il le mérite pas, mais enfin, notre psychologie nous dit, oui, il mérite, quoi. Ils ont fait le mal, donc ils peuvent en baver. Mais quand le malheur s'abat sur l'innocent, on dit c'est l'injustice absolue. Et quand on est confronté toutes les nuits, on allait dans la rue à la rencontre de ses enfants, et on était confronté à ce mal-là, quoi. On les voyait qui droguait, qui une jeune fille. La première semaine où j'étais dans la rue, la travailleuse sociale de la fondation m'amène dans un cimetière où il y avait un groupe d'enfants, et alors qu'il était, moi je ne parlais pas un mot de philippin, alors qu'il était, j'étais à côté de lui, il discutait, et je vois une jeune fille de 12 ans rentrer dans une tombe, un caveau, et puis en sortir, un quart d'heure plus tard, puis re-rentrer 10 minutes plus tard avec un autre homme, et ressortir un quart d'heure plus tard, une jeune fille de 12 ans. Alors moi je me disais, mais quand la très sociale m'a dit, elle se prostitue, elle va faire 10, 15 pas cette nuit. Je lui dis, mais il faut aller dénoncer la police ou casser la gueule au gars. Il me dit, mais surtout pas, parce que si vous faites ça, c'est-à-dire si vous cassez la gueule au client ou vous arrachez à la jeune fille, le souteneur, qui est le chef du gang des 40 enfants qui sont là, il n'aura plus accès aux enfants, et donc on ne pourra plus essayer de tirer un enfant de la rue. Donc c'était vraiment le mal dont on est complice, le mal qui s'abat sur l'innocent. Et je me disais, cette question-là, comment Dieu peut-il permettre ce mal-là? Cette question-là, la question du mal, la permission du mal, c'est un sujet, je crois, qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Et je dis tous, nous chrétiens, mais qui touche tout homme. Enfin, tout homme se pose cette question-là intellectuellement ou existentiellement, parce qu'on a été marqué, frappé, témoin, sujet du mal. Ces enfants-là, cette première rencontre que j'ai faite avec ces enfants qui vivent dans le cimetière, ce groupe-là, ça me disait que ces enfants-là, vivant dans un cimetière au milieu des tombes, en fait, le mal qui s'abattait sur eux, leur faisait choisir la mort. En fait, ils vivaient parmi les morts, et le malheur, les entraînait vers la mort. Ce mal, quand on y est confronté, tant que finalement le mal, on le voit dans nos feuilletons, sur Internet, dans les films, ça peut nous choquer, mais il y a cette espèce de distance que met la télévision ou autre. Mais dès qu'on le voit de nos yeux, dès qu'on... Entrez, hein, on pourra ajouter des chaises. En fait, ça crée un malaise invivable. En fait. On va rajouter des chaises par là. Et vous savez, au tout début de... Enfin, ce qui m'a permis, en tout cas, de traverser ces deux années, c'est cette phrase qu'il y a dans le livre de la Genèse, au moment où Caïn tue Abel dans la grotte, où il tue son frère. Et puis on dit, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est Hugo qui dit ça. La Bible, elle ne le dit pas de cette manière-là. Et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Et Caïn répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de mon frère? Et toutes, enfin, il n'y a pas de réponse immédiate dans l'Écriture, mais bien sûr que toute l'Écriture crie, mais oui, je suis le gardien de mon frère. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder le mal de manière indifférente. En fait, le mal ne peut pas être, pour nous, chrétiens, nous, lecteurs de la Bible, croyants dans le Dieu de la Bible, en fait, la question du mal n'est pas qu'une question intellectuelle. Bien sûr, là, on va parler du mal ce soir, mais en fait, pour nous, ça n'est jamais d'abord une question intellectuelle. Ce n'est pas un problème qu'il faut résoudre, ce n'est pas une question à laquelle on pourrait répondre, en fait. Mais cette question de Caïn, enfin de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Moi, elle me taraude et elle me dit, mais je veux essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet le mal. Enfin, pour moi, c'était existentiel. Je ne pouvais pas continuer à avancer dans mon chemin vers le sacerdoce, mais mon chemin à la suite de Dieu, sans essayer à minima de comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet le mal. Donc ça, c'est une petite introduction. Quels sont les enjeux, selon moi, de... Il y a une place pour toi ou pas, Richard? Il y a des chaises, là-bas. Quels sont les enjeux de cette question-là? D'abord, je vous le disais, cette question... Elle est universelle. Elle nous touche tous. Tous sont concernés. Ensuite, cette question, elle est irrésolue. Et au risque de vous décevoir, je ne la résoudrai pas ce soir. Voilà. J'y répondrai pas. Parce que c'est pas possible. D'ailleurs, c'est le pape François, quand il est venu aux Philippines... enfin, vous n'avez même pas vu ça, mais il a rencontré une jeune fille qui avait 12 ans de la fondation où j'étais. Donc c'était devant un des grands rassemblements. Il y avait 50 000 personnes. Et donc la petite fille avec un autre jeune garçon de la fondation devait... offrir quelque chose au Saint-Père et dire un mot. Et elle dit un mot là-dessus. Elle raconte au Saint-Père son histoire. Voilà. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans la rue parce que sa mère l'avait abandonnée et qu'elle a traîné dans la rue et qu'elle s'est prostituée. Et elle fond en larmes en posant exactement cette question-là. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça. Et le pape François lui dit, écoute, tu me poses la seule question à laquelle il n'y a aucune réponse. Donc cette question, elle est irrésolue, je vous le disais. Alors parfois, à peu de frais, pour la résoudre, on dit que Dieu n'existe pas. Ou que Dieu est un Dieu cruel. Et donc, il permet le mal parce que c'est un Dieu cruel. Mais ça, c'est un raccourci trop rapide. D'ailleurs, ça ne satisfait personne de dire le mal existe parce que Dieu n'existe pas. Ou le mal existe parce que Dieu est cruel. Mais alors, je me retrouve quand même avec la question du mal et la irrésolue à nouveau. Et même, je dirais, que non seulement... ça n'apporte pas de réponse de se dire que Dieu n'existe pas ou que Dieu est un Dieu cruel, mais même ça nous désarme sur le chemin, peut-être, non pas d'une réponse à la question, mais d'une manière de vivre cette permission du mal par Dieu. Enfin, troisième raison, c'est que cette question est incontournable. En fait, on ne peut pas en faire l'impasse dans nos vies, sauf à être totalement indifférent, c'est-à-dire à se rendre indifférent au mal. C'est-à-dire, moi, je vis dans ma bulle, je mets deux œillères, et finalement, je ne veux pas voir le mal. Finalement, il m'est indifférent, jusqu'au moment où il m'arrive à moi, ce mal. Et là, je ne peux plus ne pas le voir. Donc, elle est incontournable. C'est Dostoïevski dans les frères Karamazov qui a cette phrase terrible. Il dit il faut que cela, à propos de la question du mal, il dit il faut que cela cesse. Religieux mes frères, les souffrances des enfants doivent prendre fin. Levez-vous et prêchez. Cette question-là, moi, en fait, je veux la voir disparaître. Cette question insupportable, je veux la voir disparaître, non pas en ne voulant pas la voir, en mettant des ornières, mais parce qu'elle est insupportable, il faut bien la faire disparaître. Et particulièrement celle de la souffrance dont j'ai été témoin, la souffrance des enfants, on se dit, je veux la voir disparaître, cette souffrance-là. La souffrance de l'innocent. C'est impossible de rester indifférent ou bien d'en parler simplement comme d'un cours de théologie. La question dont on va traiter ce soir, contrairement aux autres, non, quoique non, je dis une bêtise, mais elle est existentielle, elle n'est pas intellectuelle. Et en fait, pour nous chrétiens, chacun des thèmes qu'on aborde dans Dieu en question, ce n'est pas des termes intellectuels. En fait, ils doivent toujours entraîner une transformation de notre être, de notre manière d'agir. Si jamais un enseignement, un sermon ne change pas notre vie, notre manière d'être, alors il n'a pas d'intérêt. Enfin, on peut aller à l'université pour ça, si on veut se former, approfondir, mais... Alors peut-être il faut commencer par partir de ce que dit la Bible sur l'origine du mal. D'abord, ce que dit la Bible sur l'origine du mal, c'est que Dieu est bon. C'est le début de la Bible. Au début de la Bible, Dieu est bon. Et ce qu'il crée est bon. À chaque fois que Dieu crée quelque chose... Il crée, donc c'est Genèse 1 et 2, il crée le ciel et la terre, et Dieu dit que cela a été bon. Il crée les oiseaux du ciel, les bestioles qui vont sur la terre, et il dit que cela a été bon. Il crée les fruits, et il dit que cela a été bon. Il crée les grands luminaires et les eaux, et il dit que cela a été bon. Il crée l'homme et la femme, et il dit que cela a été très bon. Il y a encore plein de place là-bas. Donc c'est important de se dire que la première chose que Dieu, que l'Écriture nous dit de Dieu, c'est qu'il est bon et que ce qu'il fait est bon. C'est-à-dire qu'elle ne commence pas par nous parler du mal, l'Écriture. Elle commence par nous parler du bien et de ce Dieu qui est bon et qui fait le bien. Et donc, dans ce que Dieu fait, il crée aussi la liberté de l'homme et de la femme. Parce que la bonté de l'homme et de la femme demande sa liberté. La liberté est une bonne chose, est un don de Dieu fait à l'homme et à la femme. Mais, comme tout ce que crée Dieu, tout ce que crée Dieu, ce sont des choses créées. Il est lui seul créateur. Donc, si elles sont créées, ça veut dire qu'elles sont finies ou limitées. Lui seul est infini ou illimité. C'est vrai de la Terre, qui est limitée, c'est vrai même de l'univers, qui a beau être en expansion, il est fini, il n'est pas infini, même s'il y a des univers. Et c'est vrai de notre liberté, qui elle aussi est une liberté finie, est une liberté limitée. Et dans l'Écriture, la limite de cette liberté, elle est dans le chapitre 2 de la Genèse, quand Dieu pose une limite à cette liberté, il dit à l'homme et à la femme, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, vous avez des places là-bas, oui. On peut peut-être prendre quelques chaises et les rajouter, celles qui sont derrière. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas. Parce que si vous en mangez, vous mourrez. Voilà. Donc il pose une limite à la liberté. Et cette limite, elle implique de faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, est-ce que vous me faites confiance quand je vous dis que cet arbre-là, vous ne pouvez pas en manger ? Cette attitude de confiance, elle est vraiment la relation que Dieu crée, que Dieu noue, entre lui et nous, entre lui et les créatures. À l'origine, Dieu nous pose dans cette relation de confiance. Et je vous l'ai souvent dit, hein, mais on sait bien, on sent bien même, de manière un peu existentielle, combien la relation de confiance nous met dans la paix. C'est quand nous sommes en confiance avec Dieu, avec l'autre et avec nous-mêmes, que nous sommes dans la paix. Et bien sûr, quand il y a de la méfiance, de la défiance, du conflit, la paix disparaît. Donc à l'origine, Dieu crée un monde bon, il crée l'homme libre, avec une liberté limitée, et c'est ce que nous raconte le récit de Genèse 1 et 2, ça dispose l'homme dans une espèce de quadruple harmonie, que raconte ce récit de la création, hein. L'harmonie entre l'homme et Dieu, l'harmonie entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève, l'harmonie entre l'homme et lui-même, une espèce d'équilibre, et l'harmonie entre l'homme et la création. Il peut manger de tous les arbres du jardin, il peut jouir de la création librement. Donc, le premier mot de l'Écriture sur le mal, c'est le bien. Et c'est très important. C'est-à-dire que le projet de Dieu est un projet bon. Enfin, un projet de bonheur. Pas un projet de malheur. Ce que dira le prophète Isaïe, et ce que diront souvent les prophètes, hein. Ce n'est pas le malheur que je veux pour vous, mais des vœux de bonheur. Puis arrive le chapitre 3 de la Genèse, que je voudrais vous lire, ou en tout cas une partie, du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, ça c'est l'entrée du mal dans le monde. C'est ce petit passage qui est comme un poème, hein, qui est un récit qu'on appelle récit d'origine. C'est-à-dire que c'est pas un film, ça c'est pas forcément passé comme ça à l'origine. Mais ça nous dit, avec ces mots poétiques, comment le mal est entré dans le monde. Le mal est entré dans le monde par une désobéissance. C'est-à-dire que l'homme et la femme étaient installés dans une relation de confiance avec Dieu. Confiance ou d'obéissance, c'est la même chose. Et ils ont préféré faire confiance au serpent. Ils ont préféré écouter la voix du serpent, alors que Dieu leur avait dit « Si vous en mangez, vous mourrez ». C'est-à-dire que la mort, c'est la rançon du mal. Le mal produit le malheur, et le malheur, son signe le plus flagrant, c'est la mort. Toute forme de mort, d'ailleurs. Donc le mal entre dans le monde par la désobéissance, par la défiance vis-à-vis de la parole de Dieu. Et l'introduction du mal dans le monde va briser les quatre grandes harmonies. Et c'est ce que raconte le récit de la Genèse. L'harmonie de l'homme avec Dieu, Adam se met à avoir peur de Dieu, alors qu'il était en amitié. Adam et Ève commencent à s'accuser l'un l'autre. Et ils ont même honte l'un de l'autre, parce qu'ils étaient nus. Jusque-là, ils n'avaient pas honte de ça. Ils étaient en harmonie l'un avec l'autre. L'harmonie avec la création va être brisée à partir de maintenant. Il faudra que tu travailles la sueur de ton front, tu ne pourras plus cueillir les arbres du jardin. Donc voilà, c'est comme ça que l'Écriture, que la Bible nous parle de l'introduction du mal dans le monde. Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 12, reprendra ce récit en disant « Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venu la mort et le mal. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. » Voilà, donc première partie, ce que l'Écriture nous dit du mal, en tout cas du commencement du mal. Ensuite, peut-être qu'il est bon de définir de manière un peu philosophique ce qu'est le mal. Alors, de manière basique, le mal, c'est l'opposé du bien. En fait, on ne peut définir le mal que par rapport au bien. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut d'abord qu'il y ait un bien, ce que Dieu crée un monde bon, pour que le mal vienne comme le ronger. Parce que le mal se définit toujours par rapport au bien. Et il le ronge. Par exemple, la cécité, c'est l'absence de vue. C'est pas quelque chose en soi, la cécité. Ça vient ronger notre capacité à voir. Une carie, parce que j'ai un dentiste devant moi, une carie, ça ronge la dent, ça mange la dent. S'il n'y avait pas de dent, s'il n'y avait pas le bien qu'est la dent, il n'y aurait pas de carie. Voilà. C'est un vide, une carie, enfin, ça fait un trou à la fin, ça ronge, quoi. Mais sans la dent, pas de carie, quoi. Donc sans bien, il n'y a pas de mal. Le mal, il ne peut se définir que par rapport à un bien. Tout mal. Et donc la théologie, quand elle essaie de serrer les différents types de mal, elle en voit trois. Le premier, c'est le mal physique, celui qui atteint notre intégrité physique, mais sans péché. Je crois que c'est le mal qui provoque le plus le doute. Parce que on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'il y a ce mal, puisque ce n'est pas l'homme qui le provoque, puisqu'il ne vient pas de mal, il ne vient pas de moi. Comment est-ce que ce mal peut exister, puisqu'il ne vient pas de moi? C'est le mal de la maladie, c'est le mal... J'en suis pas responsable. Le deuxième mal, nous dit la théologie, c'est le mal de la faute. Le mal de la faute, il atteint notre intégrité physique ou notre intégrité morale. Le mal de la faute, c'est le mal du péché. Celui-là, ce mal-là, c'est le mal paradoxal. C'est le mal de la Genèse, en fait. Vous savez, c'est le mal de notre liberté. C'est quand on choisit un bien, la pomme, enfin le fruit de l'arbre, qui est un bien, c'est un fruit. Et même on nous dit qu'il était beau, il était savoureux, ce fruit. Parce que, en fait, un mal, on ne le choisit jamais parce qu'il est mal. On le choisit toujours sous l'aspect d'un bien. C'est l'histoire de la pomme rouge de Blanche-Neige, quoi. La méchante sorcière, elle présente une pomme rouge, mais elle est bien brillante. C'est la plus belle du panier, quoi. Voilà. Donc, en fait, on ne choisit jamais le mal pour le mal, sauf une perversion terrible. Mais il n'y a parmi nous aucun pervers, donc quand on choisit le mal, c'est toujours parce qu'il y a un bien qui se présente à nous. Oui, toujours. Mais un bien qui nous détourne du grand bien qui est Dieu. C'est un bien très partiel. Un bien, d'ailleurs, que le démon se cache, en fait, hein, comme la pomme de Blanche-Neige, quoi. Elle est empoisonnée, cette pomme-là. Mais on ne le choisirait jamais si on voyait clairement qu'il était mauvais. Notre volonté, elle ne choisit jamais qu'un bien. Mais le paradoxe de notre liberté, c'est que parfois, elle choisit un bien partiel qui nous détourne du grand bien qui est Dieu et surtout qui nous détruit. Parce que dès qu'on choisit le mal, en fait, le mal fait son œuvre en nous et donc nous abîme, nous détruit. Lentement, hein, progressivement, petit à petit, le classique, c'est l'infidélité. L'infidélité, on ne la choisit jamais d'un seul coup. On commence toujours par des petites infidélités. L'infidélité d'un texto, l'infidélité d'un repas avec un camarade, l'infidélité, voilà, progressivement, d'un regard. Et puis un jour, on tombe dans la grande infidélité. Donc, le mal physique, le mal de la faute, qui est le mal du péché, c'est ce choix libre que je fais du mal. Et le troisième, c'est le mal de la peine. Le mal de la peine, c'est celui... Enfin, il atteint notre intégrité physique ou morale, mais ce mal de la peine, c'est la conséquence du péché. Et ça... c'est le mal scandaleux. Vous savez, le premier, c'est le mal qui nous fait douter. Le deuxième, c'est le mal paradoxal. Le troisième, c'est le mal scandaleux. Parce que la conséquence du péché, de mon péché, notre péché, elle touche bien sûr celui qui commet le péché. Mais en fait, par propagation, toujours, elle touche aussi ceux qui ne posent pas l'acte de péché, par répercussion. Et bien souvent, elle touche les plus innocents. Les enfants particulièrement. Le péché de ce père alcoolique qui bat sa femme, qui la tue, qui s'en va, enfin, et qui laisse ses enfants à la rue. Les enfants... Ils n'ont rien fait, rien demandé, mais le péché de leur père a tué sa femme, et les enfants ont les conséquences de la peine dont ils sont absolument innocents. Et donc ça, c'est le mal scandaleux. Parce que c'est le mal qui est causé par les hommes. C'est le mal que je cause moi. Chaque fois que je commets un péché, c'est pas juste un truc qui m'atteint moi, ou éventuellement qui atteint Dieu. En fait, ce mal-là, il produit le malheur par cercle concentrique. Je vous disais que le mal, c'est la privation d'un bien. C'est la définition qu'on donne. Aristote, il dit, c'est la privation d'un bien qui est dû. Parce qu'il faut attention de se dire que tout manque, toute privation, c'est pas un mal. Par exemple, le fait que je n'ai pas d'aile comme un ange, c'est pas un mal. Parce que ça n'est pas dû à la nature humaine de pouvoir voler, par exemple. Voilà. On peut se dire, tiens, moi j'aimerais bien voler, mais c'est pas un mal qui m'est, c'est pas un bien qui m'est dû. Donc le mal, c'est une privation, c'est une absence. C'est-à-dire qu'il est bien là, le mal, et il fait mal, le mal, mais il nous ronge comme le trou du gruyère, quoi. Enfin, si le trou du gruyère, c'est rien, si, c'est qu'il a pris un morceau de gruyère, c'est un vide, mais il ne peut exister que dans le gruyère, c'est une privation de gruyère. C'est le cardinal Journet, le topo que je prends, il est tiré d'un livre du cardinal Journet sur le mal. Si vous voulez vraiment l'approfondir, vous pouvez acheter ce petit bouquin, cardinal Journet, et il s'appelle Le Mal. Et il dit, la profondeur du mal se mesurera toujours à la mesure de l'être qu'il détruit. Ce que vous dites sur la cécité. La cécité, c'est l'absence de vue. Quelles sont les réactions en face du mal? Peut-être que vous le savez, il y a, sur la question du mal, il y a trois piliers qu'on ne peut jamais tenir tous les trois ensemble. Et du coup, c'est l'objet du scandale du mal. Ces trois piliers, c'est Dieu est tout-puissant, Dieu est bon, et le mal existe. En fait, on ne peut pas tenir les trois ensemble. On ne peut pas tenir que le mal existe si Dieu est bon. Bon et tout-puissant. Voilà. On peut tenir seulement que Dieu est tout-puissant et Dieu est bon, mais pas que le mal existe. On peut éventuellement dire que le mal existe et Dieu est bon, mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il est tout-puissant. Dans ce cas, il est impuissant à empêcher le mal. Il est bon, mais il est impuissant. Ou alors, on peut dire que le mal existe, que Dieu est tout-puissant, mais qu'il n'est pas bon, qu'il est sadique. Voilà. Ça, c'est possible de tenir les deux. Mais les trois ensemble, on dit qu'il y a une aporie. Or, nous croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon. C'est un dogme de foi. Et on ne peut pas abandonner. Enfin, moi, je ne peux pas croire en un Dieu qui ne serait soit pas bon, soit pas tout-puissant. Dans ce cas, il n'est pas Dieu. C'est un demi-dieu, c'est un héros antique, mais il n'est pas le Dieu de la Bible. Alors, à cette aporie, à cette impossibilité de tenir les trois ensemble, soit on se dit le mal est une illusion, ça certaines philosophies orientales nous disent que le mal est une illusion, il suffit de le rejeter pour qu'il n'existe pas. Moi, quand j'étais dans la rue à Manille, je ne pouvais pas me dire que c'était une illusion. Enfin, le mal, il était bien là. En fait, chacun de nous, on sait bien que le mal, ce n'est pas une illusion. Il est bien là. Ou alors, ce que dit Nietzsche, le monde est absurde. Du coup, si le monde est absurde, alors, en effet, il y a une place pour le mal dans le monde. Mais nous, on sait bien que l'absurdité, si vraiment le monde était absurde, il n'aurait pas de sens et il irait à sa perte, il se détruirait. Enfin, il serait détruit. Or, pour nous, le monde a un sens. Enfin, la vie a un sens. Alors, certains que ça, aujourd'hui, en France, en 2024, parfois, on pourrait être tenté de se dire, ben non, en fait, le monde est absurde, justement. Et c'est peut-être ça qui résout cette aporie. Mais pour nous, en tout cas, chrétiens, elle est insupportable. Et enfin, la troisième réaction, c'est de refuser Dieu au nom du mal. Finalement, je préfère choisir l'existence du mal et refuser, du coup, l'existence de Dieu. Ça me permet de résoudre au moins intellectuellement la présence du mal. Mais je crois que ça, c'est tomber dans le piège du mal. C'est-à-dire, c'est se désarmer en face du mal et, par exemple, prendre la voie dont je parlais tout à l'heure, celle des œillères, de l'individualisme, de dire, ben, du coup, je mène ma vie tout seul, je m'en fous de... Le mal existe, mais il faut que je m'en tire. C'est Hunger Game, quoi. Vous savez, c'est chacun pour soi, quoi. Voilà. On va essayer de résister, puis il n'y a plus de loi. On peut se tuer les uns les autres. Le but, c'est que le plus fort survive, quoi. Je vous disais que le mal, du coup, c'était une privation d'un bien, que le mal ne peut pas exister sans le bien. Sa définition, j'allais dire, elle est convenable intellectuellement, hein, c'est celle de Platon, d'Aristote, mais elle n'est pas satisfaisante. C'est Simone Veil qui disait ça, hein. « Aucun motif qu'on puisse me donner pour compenser une larme d'enfant ne peut me faire accepter cette larme. » C'est-à-dire qu'on peut m'expliquer dans tous les sens. Jamais je n'accepterai le mal quand il touche l'innocent. Jamais j'accepterai. C'est inacceptable, insupportable. Et ce que l'Écriture nous dit, c'est qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas. C'est invivable d'accepter l'inacceptable. On peut réfléchir au mal, hein. On peut pardonner le pécheur. Mais l'Église, alors c'est une chose qui m'étonne toujours, moi, mais elle nous dit de haïr le mal. Elle nous dit d'avoir une haine farouche contre le mal. À tel point, on se dit, ça veut dire qu'on peut haïr quelque chose. Oui, le mal. On peut haïr le mal. Parce que le mal est destructeur. C'est ce que Dieu dira à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. Il le dit à Moïse. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il tue le chef de corvée. Mais c'est un mal de tuer le chef de corvée. Mais en fait, c'est la haine que Moïse a du mal qui lui fait combattre l'injustice, alors de manière mauvaise. Mais néanmoins, ce caractère inacceptable du mal nous conduit à une haine farouche du mal par amour du prochain. Le moteur pour nous de cette haine du mal, c'est l'amour de notre prochain. Ce cri de colère contre le mal, les psaumes en sont truffés. Donc il ne faut pas hésiter à crier cette colère contre le mal vers Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, hein, que la blessure du mal ne guérira jamais. Ici-bas, il y aura toujours du mal. Que ce scandale-là, il existera toujours. Le lieu où il n'existe plus, c'est le paradis. C'est auprès de Dieu. Mais ici-bas, un monde sans mal, il n'existera pas. Donc en face de ce scandale du mal, la première réaction que l'Écriture nous enjoint, c'est la colère, la révolte, je disais même la haine. Mais cette première réaction, elle risque de nous conduire dans une spirale de violence, et donc elle pourrait nous perdre. La deuxième réponse que l'Écriture nous donne en face du scandale du mal, c'est le silence. Alors, il y a plusieurs formes de silence. D'abord, c'est difficile à moi de le dire parce que je parle, mais c'est de se dire l'impuissance de nos mots à expliquer le mal. Mes mots, tout ce que je peux dire de plus ou moins intelligent, en fait, me fait sentir mon impuissance à dire quelque chose de pertinent sur le mal. Je suis dépassé par le scandale du mal. Je suis désarmé par le scandale et même le mystère du mal. Le cardinal Journet ose dire que c'est un mystère. Et il cite dans son livre une phrase du cardinal Veuillot qui dit « Il est des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. » C'est certainement ça, une des pistes. Pleurer et se taire devant le mal. Parce que quand quelqu'un souffre, ça ne sert à rien de lui expliquer le mal. Ça ne sert à rien de lui expliquer sa souffrance. La seule parole, c'est celle du silence, qui n'est pas l'indifférence, qui n'est pas la complicité avec le mal. Je ne parle pas de ce silence qui serait une indifférence ou une complicité. Non, ce silence-là, c'est le silence de la compassion. Je ne peux pas expliquer, je ne peux rien dire, je ne peux qu'être là et essayer de consoler. Ce silence, en fait, c'est le silence du Christ sur la croix. Sur la croix, il y a 7 paroles du Christ, je vais en commenter 3, simplement. Mais le Christ est le grand silencieux. Bossuet indique que la croix, c'est l'ultime chair de Jésus. Celle où il prêche, et où il ne prêche pas par des paroles, mais il prêche par son silence. Or, aujourd'hui, en fait, plus personne, ou presque, n'écoute le silence de la croix. Même nous, catholiques, on n'aime pas trop le silence de la croix. Cardinal Journet dit, dans ce livre, « Au grand assaut du mal, il n'est pas d'autre solution que ce dialogue muet avec le Dieu d'amour. » Ce dialogue muet, c'est le dialogue du Fils avec son Père, dans lequel nous, on n'a pas pu rentrer, mais le Fils dialoguait avec le Père sur la croix. La parole de Jésus sur la croix en Saint Marc, chapitre 15, le verset 34, c'est ce cri vers le Père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou bien c'est le... Enfin, et la réponse à ce cri, c'est Elie Wiesel qui raconte ça dans les camps de la mort, quand il y a on leur donne d'assister à la pendaison régulièrement, à la pendaison d'autres juifs. Et ce jour-là, on pend un petit enfant de 12 ans. Le problème, c'est que son poids ne suffisait pas à lui briser la nuque. Donc, en général, il mourait d'un seul coup, mais lui, en fait, il est mort très lentement. Et donc, il passe devant, et on le voit avec les yeux qui sont encore vifs, en train de s'agiter. Et à ce moment-là, quelqu'un dit à Elie Wiesel, mais et il est où ton Dieu, là ? Et dans ce texte, Elie Wiesel dit, mais il est là, mon Dieu. Alors, c'est un juif qui dit ça. Il ne parlait pas de Jésus-Christ, mais pourtant, la réponse, elle est en Jésus-Christ. En fait, notre Dieu, il est là où l'innocent souffre. Je vous dis, le plus grand scandale du mal, c'est la souffrance gratuite de l'innocent. Cet enfant pendu dans les camps de la mort, mais Jésus cloué sur la croix. Et du coup, ce... Mais où est donc ton Dieu ? On peut le dire, nous, avec les yeux de la foi, de chaque situations scandaleuses. Du coup, il n'y en a aucune qui peut nous laisser indifférents. Le Christ se plonge dans les ordures de Manille. Le Christ se plonge dans ce petit enfant du camp où était Elie Wiesel. En fait, le Christ est présent, est réellement présent dans tout innocent qui souffre. Mais en fait, c'est pas suffisamment, enfin, c'est pas satisfaisant. Et ça nous laisse avec la question de pourquoi Dieu permet ce mal. Vous vous souvenez hein, des trois piliers sur la puissance de Dieu, la bonté de Dieu et l'existence du mal. Ben, la seule chose qui nous permette, nous, catholiques, de tenir ces trois piliers, l'existence d'un Dieu bon, sa toute-puissance et l'existence du mal, c'est donc que Dieu permet le mal. Il ne le veut pas, mais il le permet. Et du coup, ce mal, ben, ça reste un mystère qui nous dépasse. Mais il me faut tenir coûte que coûte que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon. Et que si Dieu permet le mal, c'est une permission, c'est-à-dire d'amour. C'est le gardien Journet qui dit ça encore, hein. Jusqu'à quelle profondeur Dieu nous demande-t-il de croire en son amour ? Si je m'obstine à continuer à chercher une réponse, en fait, je risque de désespérer. Je vous disais, c'est ce mystère du scandale du mal, de la permission du mal, c'est un mystère qui nous engage. Mère Teresa qui côtoyait ce scandale du mal quotidiennement, elle disait « J'ai découvert un paradoxe. Si vous aimez jusqu'à en souffrir, il n'y a plus de souffrance. Juste l'amour. » Ça paraît fou. C'est pourtant le chemin que Jésus a pris et que les saints ont pris avec lui, enfin, en le suivant lui. Je vous le redis, j'ai découvert un paradoxe, si vous aimez jusqu'à en souffrir, il n'y a plus de souffrance, juste l'amour. Et c'est la réponse du Christ au mal, parce que le Christ a répondu au mal en se donnant lui-même. En fait, on répond pas au mal par une explication. En fait, on répond au mal par un amour plus grand. En fait, on répond au mal par une effusion de l'amour. Et c'est Jésus en croix. En Jésus en croix, on a le scandale du mal, la croix. Et on a l'effusion de l'amour, c'est Jésus sur la croix. C'est Paul Claudel, dans sa méditation du chemin de croix, qui a cette très belle phrase qui est très connue. Hein. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais la remplir de sa présence. Donc il n'explique pas, mais il remplit. La souffrance, c'est un creux, je disais, c'est une absence de bien. Eh bien, Jésus-Christ, en venant habiter la souffrance, il ne l'explique pas, il la remplit. Et en face, du coup, de ce scandale, où je vous disais, on voulait soit se révolter, soit entrer dans le silence, le Christ nous apprend un pas de plus, parce que le pas de la révolte est nécessaire, le pas du silence est nécessaire, mais il n'est pas encore satisfaisant. Le troisième pas que le Christ nous apprend, que l'Écriture nous apprend, mais en Jésus-Christ, c'est celui de l'abandon. C'est par là qu'on peut répondre au mystère du mal. Parce que la réponse de Dieu, c'est une réponse silencieuse sur la croix, abandonnée. La croix qui demeure un scandale et la croix que Jésus transforme en signe de l'amour vainqueur. Ce qu'il dit, sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Du coup, il fait de la croix, du scandale de la croix, le motif de l'amour parfait. Puisque, je disais à propos des enfants de Manille, que leur innocence accroît le scandale du mal, mais l'innocent par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui qui non seulement n'a pas péché, mais est pur de tout péché. Donc il est l'innocent par excellence. Et comment est-ce que, sur la croix, Jésus désarme le mal ? En fait, c'est en continuant d'aimer. Et sa parole, enfin sa réponse, c'est celle du pardon. Jésus désarme le mal en donnant son pardon. C'est la logique humaine, celle de Saint-Pierre, quand on vient arrêter Jésus, c'est de tirer l'épée du fourreau et de trancher l'oreille du garde, du grand prêtre. Ça, c'est la réponse du mal contre par le mal, quoi. En face du mal, je réponds par le mal. On met une claque, je mets une claque. Et c'est justice. C'est vrai, c'est justice. Mais c'est la réponse de la spirale de la violence. Enfin, parce que ça sera le plus fort qui vaincra. Celui qui a la plus grosse épée, voilà. Ça, le Christ vient le désarmer. D'abord, il demande à Pierre de remettre son épée au fourreau. Mais lui, il accepte de monter sur la croix. Il ne le subit pas. Il accepte de monter sur la croix. C'est-à-dire qu'il accepte d'affronter le scandale du mal de l'innocent. Et au cœur de ce scandale, au cœur du mal, eh ben, il pardonne. Comme pour le désarmer définitivement. C'est la parole, enfin, c'est la logique de Dieu qui répond au mal par l'amour. Qui répond au mal par le pardon. Alors ça, c'est certain que cette réponse-là, on voit bien qu'elle n'est pas intellectuelle, qu'elle n'est pas rationnelle. On pourrait même se dire qu'elle n'est pas juste au sens de la justice du monde, justice rétributive. Elle n'est pas juste. Enfin, elle est désarmante. Elle désarme notre intelligence. Elle désarme notre sens de la justice. Elle nous désarme, nous. Dit comment est-ce que moi je peux répondre à ça? Est-ce que je peux répondre à ce scandale du mal par l'amour et le pardon? Seulement si le Christ vit en moi. Mais ce que nous dit le Christ, c'est quand on répond au mal, non pas par des mots, mais par des actes, alors notre vie en fait, s'imprègne de cet amour-là. Et progressivement, le mal devient impuissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut dire qu'il devient impuissant sur moi. Il n'a pas de prise sur moi. Il ne fait pas son œuvre de mort, de destruction. Si jamais je choisis, comme Jésus-Christ, et si je choisis que Jésus-Christ vive en moi, c'est-à-dire qu'il vive jusqu'au bout, que la puissance de sa résurrection qui passe par la croix vive en moi, alors ma vie sera imprégnée de son amour qui se traduit en acte et jusque devant le scandale du mal. On a, du coup, c'est le mal qui veut anéantir et l'amour qui fait grandir. En face de ce mal. On a le mal qui veut venger, et en face, on a l'amour qui pardonne. On a le mal qui veut tuer Dieu par l'absurde, et de l'autre côté, la louange de Dieu par amour. Ce chemin-là, qui est un chemin assez incompréhensible, nous voyons dans la vie des saints, et certainement dans nos vies, que quand on est uni au Christ dans sa souffrance, en fait, on porte du fruit. Des fruits de joie, des fruits de pardon, des fruits d'un amour qui dépasse l'amour, naturel. Ça, c'est quelque chose qui est donné dans cette union à Jésus-Christ. Pas seulement la suite du Christ au bord du lac de Galilée, quand il enseigne ou quand il fait des miracles, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au sommet du Golgotha, pour avoir part, en effet, accepter cette part du scandale du mal qu'est la croix, mais de la victoire du Christ sur ce scandale par l'amour, par le pardon donné de manière inconditionnelle. Pour conclure, je reprends rapidement ce que j'ai dit. Première chose, il faut accepter d'être dépassé par le scandale du mal, par le mystère du mal. Deuxième chose, il ne faut pas trop longtemps chercher une explication intellectuelle au mal. Vous allez vous y perdre. Vous allez vous y perdre. Donc, il faut que ça tienne en une heure d'enseignement. Mais pourtant, il faut le donner une réponse. Et cette réponse, elle est celle de la compassion, celle du pardon et celle des petits actes d'amour quotidiens qui transforment notre vie. Cinquièmement, recueillir les fruits de cette réponse donnée au mal. Quand je ne réponds pas au mal par le mal, mais que je réponds au mal par l'amour, je recueille des fruits. La joie, l'espérance. Et enfin, ce sera la conclusion, être les instruments de cette réponse au mal. C'est la belle prière de Saint François, que je vais vous lire, qui est vraiment la réponse d'un fils de Dieu. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.